RFI 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. L'heure du journal d'Edouard Dupénoat, l'actualité ni africaine ni vraiment internationale, océanique plutôt ce matin.
Oui, RFI est à Nice pour la conférence de l'ONU sur l'océan. Le monde va-t-il se fixer des règles pour protéger ses écosystèmes de tous les dangers que notre espèce humaine lui impose ? Éclairage, illustration, explication toute la semaine sur nos antennes et dès le début de cette édition. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, habillé d'une chemise à l'effigie de la première dame et l'opposition politique du PPACI qui s'insurge. Est-ce que la France aurait déjà choisi son camp avant la présidentielle d'octobre ? Aliou Boubacar Diallo, le troisième homme de la dernière élection présidentielle en date au Mali, qui crée un nouveau mouvement d'opposition, le Front Patriotique de Résistance, et cela dans un contexte où les partis politiques sont dissous. Et puis la colère de l'opposition et de la société civile togolaise après les arrestations de manifestants ces derniers jours. Libérer les détenus politiques, c'est ce que demande le Front « Touche pas à ma Constitution ». Elle ne porte pas le nom de COP, mais elle est bien une conférence des Nations Unies, la troisième conférence de l'ONU sur l'océan qui s'ouvre à Nice, dans le sud de la France. Plusieurs dizaines de dirigeants mondiaux se retrouvent sur les bords de la Méditerranée pour que le monde se mette d'accord pour sauvegarder ce qui fait le nom de notre planète bleue. On ne saurait faire la liste de tous les domaines pour lesquels les mers du globe sont indispensables, la régulation du climat, l'absorption de carbone, la biodiversité ou encore les ressources pour les populations, tout comme on aurait du mal à égrener les dangers qui pèsent sur ces mers. Acidification, surpêche, pollution, montée du niveau de l'eau. La rédaction et les magazines de RFI font une large part cette semaine à cette conférence onusienne et on l'illustre tout de suite au Sierra Leone sur l'île de Plantain Island, une île où ce qu'il en reste, ça fait 60 ans que Alain Mohamed Camara vit sur place, 60 ans qu'il voit la mer grignoter son quotidien.
Je suis arrivé sur l'île Plantain il y a bien longtemps. Je devais avoir seulement 10 ou 12 ans. À l'époque, des Ghanéens étaient établis ici. Les gens pêchaient, bien sûr, mais ils cultivaient aussi des lopins de terre derrière leur maison. Ça n'existe plus aujourd'hui. Énormément de gens ont dû partir à cause de la pression de la mer. Ils n'en pouvaient plus. Nous avons deux problèmes ici, le manque de poissons et la montée du niveau de l'eau. Le poisson, il y en a moins à cause des méthodes de pêche destructrices pour l'environnement. Quant à l'océan, il grignote notre île et cela nous affecte beaucoup. Moi, j'ai toujours vécu ici. J'ai donné naissance à tellement d'enfants. J'en ai 10. Et ils n'ont nulle part ailleurs où aller. Autrefois, c'était facile. On pouvait boire en puisant l'eau du puits. Elle était douce et fraîche. Mais aujourd'hui, son goût a changé. On peut sentir l'eau salée qui s'est infiltrée. Notre île est en train de disparaître. Et nous prions seulement pour une intervention de nos anciens ou du gouvernement pour qu'ils nous permettent de partir pour une meilleure vie. Beaucoup de gens ont déjà construit des maisons ailleurs, ceux qui en ont les moyens. Mais ils ne partent pas toujours définitivement. C'est ici qu'ils gagnent leur vie. C'est ici qu'ils pêchent et qu'ils ont leur business.
Un témoignage recueilli sur place par Lisa Fabian, puisque les envoyés spéciaux et les correspondants de Radio France Internationale ont sillonné le littoral ouest africain ces dernières semaines, ces derniers mois. Et du Sénégal en allant jusqu'aux côtes ghanéennes, ils vous en proposent un grand reportage ce soir sur nos antennes. Rendez-vous pour l'écouter à 19h40 en temps universel.
RFI à Abidjan. 97.6 FM.
La Côte d'Ivoire est le début d'une controverse politique. Il s'en est suffi d'une chemise. Le PPACI, le parti d'opposition de Laurent Gbagbo, fustige l'attitude de l'ambassadeur de France. Il est reproché à Jean-Christophe Béliard d'avoir porté une chemise à l'effigie de la première dame, Dominique Ouattara. Tout cela en pleine année électorale, à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre. La France aurait-elle donc choisi son candidat pour la présidentielle, s'interroge le communiqué du PPACI publié ce week-end. Benoît Almeras remonte aux origines de cette controverse.
Le 31 mai dernier, Dominique Ouattara inaugure le lycée d'excellence de jeunes filles de Sinématiali dans le nord du pays. Parmi les officiels, l'ambassadeur de France, comme la plupart des invités, Jean-Christophe Béliard porte une chemise en pagne violet qui montre le visage souriant de la première dame. Un message est inscrit « Merci maman Dominique Ouattara ». Pour le PPACI, c'est le signe du soutien de la France au camp du président ivoirien Alassane Ouattara. Habiba Touré porte-parole du parti d'opposition.
Vous avez l'ambassadeur de France qui se drape dans un pagne à l'effigie de l'épouse du président du RHDP, à savoir M. Alassane Ouattara. Ce n'est pas rien. Tout toute action va donner lieu à une interprétation politique. Nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays quand même qui a une histoire douloureuse avec le processus électoral. Pour le PPAC, un diplomate ne devrait jamais faire ça.
Pour le directeur de communication de la Fondation de la Première Dame, le pagne est un cadeau des villageois de Sinématiali. Il rajoute « La Fondation fait dans le caritatif, elle ne fait pas de politique ». L'ambassade de France ne souhaite pas réagir pour le moment. Une source rappelle tout de même que Jean-Christophe Béliard et Laurent Gbagbo se sont déjà parlé pendant 2 heures. C'était chez l'ancien président en novembre dernier. Une rencontre cordiale d'après les présents. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
Les défenseurs des droits humains au Kenya s'indignent après la mort en cellule d'un jeune homme gardé à vue, Albert Ojwang, qui a été déclaré mort hier 24 heures après son interpellation. Les forces de l'ordre l'avaient arrêté samedi en l'accusant de fausses publications après des messages qu'il a postés sur le réseau X. Mais hier, en voulant lui rendre visite, ses proches ont donc appris qu'il était décédé après des coups à la tête qu'il se serait lui-même infligé. Les organisations de défense des droits de l'homme remettent en cause cette version. Le Kenya, c'est aussi l'arrestation d'un militaire britannique après des accusations de viol. Londres a confirmé hier l'interpellation de l'un de ses soldats. Les faits incriminés se seraient produits le mois dernier à Nanyuki, c'est dans le nord du pays, près des locaux de la Batouk, l'unité de formation de l'armée britannique au Kenya. Des faits qui ravive aussi la très vive controverse jamais éteinte autour de cette unité. C'était il y a 13 ans. Agnès Wanjiru, une jeune Kenyane, avait été retrouvée morte dans une fosse septique. Quelques heures auparavant, elle avait été vue en compagnie de soldats britanniques. La lumière et la vérité judiciaire n'ont jamais été totalement faites sur cette affaire. On en vient à la politique malienne maintenant et à cette nouvelle tentative d'opposition politique. Aliou Boubacar Diallo, figure de cette opposition en exil, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, fonde le FPR, le Front Patriotique de Résistance. Principale réclamation, le retour à l'ordre constitutionnel. Il condamne aussi la dissolution des partis politiques prononcée par la junte militaire. Correspondance régionale, Serge Daniel.
L'initiateur de la création du Fonds Patriotique de Résistance, FPR, est un homme à double casquette. Aliou Boubacar Diallo est un homme d'affaires prospère, mais aussi un homme politique malien. Lors des dernières élections présidentielles, il est arrivé en troisième position sur une vingtaine de candidats. Aujourd'hui, il vit en exil et appelle ses compatriotes à le rejoindre pour mettre fin à la transition, je cite, illégale dirigée par les militaires. Aliou Boubacar Diallo.
Le Front Patriotique de Résistance s'adresse à des millions de Maliens, de l'intérieur comme de la diaspora, pour qu'ensemble nous nous organisons pour que cette violation de notre constitution et cette prise de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles cesse.
La situation est grave, poursuit-il, et de rendre public son schéma de sortie de crise dénommé V3R, vérité, reconnaissance, réparation et réconciliation. Aliou Boubacar Diallo ne prône pas la violence comme mode d'action, mais il demande aux militaires maliens, avec insistance, de retourner dans les casernes et d'organiser rapidement des élections libres et démocratiques.
Serge Daniel, il est 7h38 tout juste à Bamako, même heure à Lomé. On en vient au Togo et à cette indignation qu'expriment désormais plusieurs courants de l'opposition politique. Ils demandent la libération de tous les manifestants arrêtés en fin de semaine dernière. Vendredi dernier, on le rappelle, des protestataires avaient voulu faire entendre leur colère, d'une part contre la récente réforme constitutionnelle, mais aussi contre la hausse des prix de l'électricité. Nathaniel Olimpio est le porte-parole du Front Touche pas à ma Constitution, dont le communiqué estime que les personnes arrêtées sont des détenus politiques, signe, selon lui, d'un régime aux abois.
La jeunesse a pris la lutte en main. Donc, il y a une certaine fébrilité au sein du régime et la seule réponse qui ressort, c'est la répression. Et elle est très violente en ce moment. On arrête massivement, on pastonne dans les rues, on rentre dans les maisons et on intimide les familles. Et tout cela se fait sans aucun respect de la loi. Et donc, nous sommes profondément inquiets. C'est donc pour ça que nous avons décidé de mettre en place une cellule juridique pour que les personnes qui sont arrêtées ou disparues, leurs familles, ne se retrouvent pas toutes seules face à la machine répressive. On va les accompagner. Il y a aujourd'hui au Togo plus d'une centaine de détenus politiques, sans jugement pour la plupart. La Cour de justice de la CEDEAO a pris des décisions exigeant la libération immédiate de ces détenus, mais l'État togolais ne respecte pas ces décisions de la Cour de justice et maintient ces personnes en détention. Ce qui d'ailleurs confirme le caractère politique de ces détenus.
Nathaniel Olimpio, porte-parole du Front Togolais, touche pas à ma constitution. Le gouvernement togolais, on le rappelle, est démissionnaire. Mais les ministres restent en place pour gérer les affaires courantes. L'un de ces ministres, sous le couvert de l'anonymat, nous indique, je le cite, que l'usage de la violence lors des derniers rassemblements n'est pas acceptable. Et ce ministre justifie les interventions des forces de l'ordre pour ramener le calme. On en vient au Nigeria, enfin, et c'est cette lutte contre les chiffres pour les femmes enceintes. Plusieurs agences de l'ONU viennent de coordonner une étude dont le résultat se formule crûment. Le pays est le plus dangereux du monde pour accoucher. En 2023, 29% des décès maternels dans le monde se produisaient au Nigeria, soit 75 000 femmes mortes cette année-là. Une femme sur 100 meurt en donnant naissance à un enfant. Et à cela, plusieurs causes. Reportage et illustration Moïse Gomis.
Charlotte, bien vissée sur ses cheveux, Zainab réajuste la couverture sur le dos d'un nouveau-né. Cette sage-femme vérifie que le mini-ventilateur souffle bien de l'air chaud sur ce nourrisson né par césarienne moins de 3 heures auparavant. Zainab.
Nous savons que oui, le taux de mortalité maternelle est élevé. Mais Dieu nous aidant, nous avons pu tout faire pour nous assurer que la mère et le bébé se portent bien. Vous savez, la joie que vous ressentez à l'idée d'être la première personne à recevoir le bébé d'une femme, vous ne savez pas à quel point ce bonheur est immense.
Daniela vient de terminer son service de 8h à 14h. Selon cette sage-femme diplômée, le manque de personnel qualifié et le manque de matériel rendent difficiles en général les gestes obstétriques. Mais Daniela estime surtout qu'il faudrait mieux accompagner certaines femmes durant leur grossesse.
Au lieu de se présenter à l'hôpital à l'heure convenue, la personne va d'abord se rendre chez une sage-femme traditionnelle ou chez une herboriste, voire même dans tous les lieux de prière. Lorsque les choses se compliquent, c'est seulement à ce moment-là qu'elles sont orientées vers le secteur de santé.
Après 10 ans de carrière en tant que sage-femme, Daniela souffre qu'une femme sur 100 meurt en accouchant encore au Nigeria. Moïse Gomis, Abuja, RFI.
À Abuja et à Lagos, il est 8h, bientôt 42. La suite et la fin de RFI Matin avec Andréane Mellard.
Merci Edouard Dupénoat, votre journal à retrouver comme tous les autres sur notre application RFI Pure Radio.